Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu qui renverse les forteresses.
Qui passe du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
Maintenant, nous allons partager la parole.
Et
ce matin, je vais partager sur l'adoration.
Et
mon titre, c'est être un vrai
adorateur.
On va revoir ce texte qui est très connu de Jean chapitre 4. Versets 22 à 24. Et je vais vous montrer un certain nombre de principes concernant l'adoration qui sont des principes fondamentaux. Parce qu'on va parler de la vraie adoration. Parce que je crois qu'il y a une certaine confusion parmi pas mal de chrétiens concernant ce que c'est que la vraie adoration. Et je veux aider un certain nombre d'entre vous à comprendre les principes de la parole de Dieu. Jean chapitre 4, on va lire à partir du verset 22. Et je vous rappelle que ce début du chapitre 4 de l'évangile de Jean, Jésus va rencontrer une Samaritaine qui n'était pas très éveillée d'ailleurs spirituellement, mais il va l'aider, il va ouvrir son cœur, il va trouver le chemin de son cœur, et cette femme va croire en lui après. Et en fait, Jésus va lui faire une remarque qui va être la base un petit peu de mon sermon aujourd'hui. Au verset 20, il dit, enfin juste un peu avant, on va lire, excusez-moi, Jésus lui donne une parole de connaissance, c'est-à-dire une révélation sur la situation passée et présente de cette femme. Et au verset 19, cette femme lui dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Et là, Jésus va lui répondre à propos de l'adoration, parce qu'elle va lui dire la chose suivante. Elle va lui dire, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous les juifs, nous les samaritains ont adoré sur cette montagne, et vous les juifs, vous dites que l'endroit où il faut adorer, c'est Jérusalem. Je
ne
veux pas entrer trop dans l'histoire de ce passage. Simplement, sachez que les Samaritains étaient les descendants de ceux qui étaient entrés en Israël après la déportation. Quant au 6e siècle avant Jésus, le roi Nabuchodonosor est venu et a envahi Jérusalem. A déporté un certain nombre d'Israélites. Les Israélites sont revenus après au pays. Mais il y avait des étrangers qui étaient là dans le territoire d'Israël. Et les descendants de ces étrangers se sont appelés les Samaritains. Et les Juifs en général n'aimaient pas les Samaritains. Parce que les Samaritains les avait empêchés de reconstruire le temple. Les ascendants des Samaritains. Et les Juifs se sont souvenus de cela. Parce que donc les ascendants des Samaritains ont constamment empêché les Juifs de revenir dans leur pays, de se réinstaller à nouveau. Et finalement, les Samaritains ont trouvé un territoire où ils ont habité. Et à chaque fois que des Juifs voulaient venir du nord d'Israël pour aller vers le sud, c'est-à-dire à Jérusalem, ils étaient obligés de passer par la Samarie. Et les Samaritains n'étaient pas d'accord. Et ils leur faisaient des histoires. Donc l'ambiance n'était pas la meilleure entre les deux.
Et
Jésus va être donc à Samarie. Et là, cette Samaritaine lui pose quand même le problème fondamental. Et la Samaritaine lui dit, nous, on doit adorer ici. Mais vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Et Jésus va lui répondre quelque chose
hein,
qui est un peu particulier, qui nous concerne, nous, l'Église de Dieu. Verset 22, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous, les Samaritains, vous ne connaissez pas le vrai Dieu. Nous adorons ce que nous connaissons. Sous-entendu, le vrai Dieu, car le salut vient des Juifs. Et regardez bien ce que Jésus va dire au verset
23.
Il va dire, mais l'heure vient, et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche.
Ici,
ici, il y a deux choses que Jésus va nous enseigner. La première, c'est que pour l'instant, il n'y avait pas de vrais adorateurs. Parce qu'il dit maintenant, l'heure vient. Là où je te parle, moi, Jésus, dans les évangiles, l'heure vient où les vrais adorateurs. Ce qui veut dire qu'avant, il n'y avait pas de vrais adorateurs. Il y avait des adorateurs, mais pas de vrais adorateurs. C'est ce que Jésus déclare ici.
Et
il va dire, l'heure vient, elle arrive, où il va y avoir des vrais adorateurs. Et là, il s'adressait à la future église, à nous qui sommes nés de nouveau, et qui sommes considérés comme les vrais adorateurs. Ça, c'est la première chose que Jésus va nous montrer dans ce texte. La deuxième chose que nous enseigne ce texte, c'est ce que Jésus va dire au verset 24. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Alors la première chose que nous allons voir, bien sûr, c'est ce que c'est que la vraie adoration. Qu'est-ce que les Juifs faisaient au niveau de l'adoration
d'abord?
Pour les Juifs, et d'ailleurs vous le verrez dans tout l'Ancien Testament, l'adoration était entourée de tout un tas de rituels. C'est-à-dire qu'il venait avec un sacrifice, il égorgeait d'une certaine façon, il faisait un certain nombre de choses, il se purifiait d'une certaine façon, il y avait un sacrificateur, il y avait tout un tas de choses qu'il faisait, et c'était leur sacrifice au travers duquel ils adoraient. Qu'est-ce que l'adoration? Une définition très simple. Une des définitions de l'adoration, c'est ressentir avec le cœur. Beaucoup de chrétiens ont la question, parce que vous savez, au niveau de la louange et l'adoration, on a entendu beaucoup de choses, et c'est un thème qui est souvent abordé dans pas mal de séminaires dans le monde entier. Et il est vrai que depuis un peu plus de 30 ans maintenant, entre 30 et 40 ans, il y a eu beaucoup de connaissances concernant la louange et l'adoration que l'Église du monde entier n'avait pas. Pendant longtemps, les églises évangéliques, bon, appelaient la louange et l'adoration le fait de chanter assis avec un recueil de chants, et on chantait des chants et on appelait ça louange et adoration. Dans certaines églises d'ailleurs, aux États-Unis, j'avais vérifié dans certaines églises, à l'avance, vous savez quel chant vous allez chanter. C'est affiché à la porte de l'église. On vous donne le programme pour tout le mois. Et on vous dit, dimanche 12 juin, par exemple, eh bien, nous chanterons le chant numéro tant, et le chant numéro tant, et le chant numéro tant.
kwisi n'indirimbo y'ijana na mirongo indwi n'indirimbo y'amakuba.
Et en fait, les gens savent à l'avance un peu ce qu'ils vont chanter. Et ils appellent ça louange adoration. Alors, j'aimerais faire quelques remarques sur ce sujet. Parce qu'il est vrai que dans les églises qu'on appelle charismatiques,
c'est-à-dire
qui ont une louange, une adoration qui est ouverte, où on chante des chants, où on a un leader qui dirige, on a tout un groupe derrière. Bon, il y a de très bonnes choses. Mais là, où j'aimerais quand même faire quelques précisions. Parce que je pense qu'il y a une erreur que beaucoup de chrétiens font. Et bon, ils chantent certains chants, c'est populaire dans le monde entier maintenant. Il y a des CD, des cassettes. Il y a de la bonne musique chrétienne. Il y a des bons chants chrétiens. Malheureusement, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui remplacent la vraie adoration par les chants, finalement. Faisons bien attention. La louange et l'adoration, ce ne sont pas les chants. Faisons bien attention à ça. Le chant et la musique
sont
un véhicule qui nous permet de louer et d'adorer Dieu d'une certaine façon. Mais il ne faut pas remplacer la louange et l'adoration par la musique et par les chants. Faisons bien attention, parce qu'il y a des avertissements, et je sens dans mon cœur qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas bien compris ce qu'était la vraie adoration, et on arrive à certaines choses parfois dans l'église qui me déçoivent profondément. Je vais vous dire un certain nombre de choses dans ce sermon à propos de cela. Bon, d'abord, j'aimerais faire une petite parenthèse à propos de la louange et l'adoration. Bon, la louange, ça vient de notre âme, de notre personnalité. C'est vraiment une expression volontaire de ce que nous voulons dire au Seigneur.
Quand
nous remercions le Seigneur, nous disons des choses à Dieu, et puis nous nous disons aussi un certain nombre de choses. Nous nous exhortons dans la louange. Par exemple, si vous regardez votre bulletin, bon, il y a toujours une liste de chants. Par exemple, on a chanté par Sois fort, courageux. Dynamique, on appelle chant de louange, et le Seigneur est avec toi, sois fort, courageux, marche dans la foi et la victoire, excusez-moi, car le Tout-Puissant est avec toi. Bon, en fait, nous nous exhortons nous-mêmes, et au travers de cela, nous louons Dieu d'une certaine manière, en montrant qu'il est Tout-Puissant, et que si on lui fait confiance, on peut marcher dans la foi, dans la victoire contre nos ennemis. Ça, c'est typiquement un chant de louange. Vous prenez un autre chant, on va prendre le troisième, nous les racheter du Tout-Puissant, par le sang du roi des rois. Bon, nous nous approchons de ton trône de gloire, là nous nous adressons à Dieu directement pour célébrer ta victoire. Puis on s'exhorte à chanter, chanter Alléluia, chanter Hosanna, crier Alléluia, chanter Hosanna. Et après nous nous adressons encore à Dieu, Seigneur tu es digne, etc. C'est un chant dynamique. Ça c'est de la louange. À partir du moment où, bien sûr, tu es d'accord avec ce que tu chantes, et que tu vraiment tu le chantes avec un dynamisme pour l'exprimer à Dieu et l'exprimer envers ton frère et ta sœur. Bon, ensuite, souvent, vous le verrez, au bout d'un moment, nous avons des chants qu'on appelle chants d'adoration, où là, ces chants sont plus doux et nous amènent à exprimer quelque chose seulement envers Dieu. On ne va pas dire chantons tous Hosanna ou Alléluia dans un chant d'adoration. Mais dans un chant d'adoration, tu t'exprimes à ton Seigneur. Tu dis quelque chose à ton Seigneur de particulier, d'intime, de proche à Dieu. Parce que là, tu veux demeurer dans la présence de Dieu. Et l'adoration est une dimension qui est complètement différente de la louange. La louange est une décision. Tu prends la décision de louer Dieu, de t'exprimer devant lui, dans le bon jour, dans le mauvais jour, que tu le ressentes ou pas. Tu prends une décision, comme le disait David dans le psaume 103. Il disait, mon âme, bénis l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme, bénis l'Éternel. C'est lui qui guérit toutes tes maladies, qui pardonne tous tes péchés, etc. Ça, c'est vraiment la louange, la décision. Mais il existe un autre monde, une autre dimension, qui s'appelle l'adoration. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'adoration, littéralement, ça veut dire ressentir du cœur. Jésus parle d'adorer en esprit et en vérité. On ne peut pas adorer avec notre intellect, avec notre âme. L'adoration n'est pas une décision. L'adoration va être la conséquence du fait que tu sois déjà dans la louange et qu'au travers de la louange, la présence de Dieu commence à descendre sur toi. Tu entres dans sa présence au travers de la louange, et à ce moment-là tu vas commencer à demeurer dans sa présence, dans l'adoration. Et dans l'adoration, il y a des degrés, il y a des profondeurs. L'adoration va être une intimité avec Dieu que tu
vis.
Et en fait, l'adoration, comme le disait un frère, c'est toujours un peu difficile à définir. La louange, c'est assez simple à définir. Et ça nous permet de comprendre un certain nombre de choses, je dirais, quand on pratique la louange. On peut avoir un séminaire sur la louange. On peut expliquer comment louer Dieu, comment s'exprimer devant Dieu, de taper les mains, de danser devant le Seigneur, de s'exprimer donc avec notre corps. Et tout ça, c'est scripturaire. À partir du moment où c'est vraiment le reflet de ce que nous avons l'habitude de vivre. Par contre, l'adoration, c'est quelque chose qui est difficile un peu à enseigner dans le sens de pur enseignement. Mais je vais quand même essayer de définir ce que c'est que l'adoration. Mais juste avant cela, j'aimerais quand même faire une parenthèse encore sur le peuple juif.
Hein.
Parce que vous verrez que dans les psaumes, il y a beaucoup, beaucoup d'exhortations à la louange. Et si vous étudiez l'Ancien Testament, vous verrez qu'il y a deux passages où Dieu va répandre sa présence. Une fois d'abord, ça va être dans le temple, dans 2 Chroniques chapitre 5, où là, quand Salomon va faire la dédicace du temple qu'il va construire, il va y avoir les chantres qui vont être là, les sacrificateurs qui vont être là. Ils vont se mettre à chanter les psaumes. Et ils étaient tellement unis, tellement dans la volonté de Dieu, que dans la louange, je
n'ai
pas dit dans l'adoration parce que le texte dit bien dans la louange, la présence de Dieu va descendre sur eux à tel point qu'ils vont être saisis par la puissance de Dieu et qu'ils vont tomber partout sous la puissance de Dieu. Ça, c'est un exemple dans l'Ancien Testament, mais dans la louange. Un deuxième exemple que nous avons, c'est dans 2 Chroniques chapitre 20, où les Israélites étaient attaqués par des ennemis et le roi Josaphat va écouter le conseil d'un prophète et il va pratiquer ce que le prophète lui a dit. Devant l'armée des Israélites, il va mettre les chantres, et quand ils vont commencer à chanter, la puissance de Dieu va tomber et les ennemis d'Israël vont être complètement confondus. Mais ça va être aussi dans la louange. Les exemples que vous aurez dans l'adoration, ce sont des gens qui viennent devant Dieu, se prosterner devant Dieu, avoir une sorte de rituel avec des sacrifices. Mais en aucun cas on peut dire que ce sont les vraies adorateurs.
muri.
Alors qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire dans le Nouveau Testament?
D'abord,
il faut que vous sachiez qu'il y a une onction.
C'est l'onction
de la nouvelle naissance
qui
vous a donné un droit à l'accès à la présence de
Dieu.
Très important de comprendre.
Dieu
nous a donné un accès
dans
sa présence
pour
que nous puissions être dans sa présence
et demeurer dans sa présence.
Dans l'Épître aux Hébreux au chapitre
10,
ça nous est largement dit,
versets
19 à 21. Ça, c'est très important que vous le sachiez. Ça nous a été rappelé tout à l'heure. Hébreux 10, 19 à 21. Il est dit, ainsi donc, frères, donc vous qui êtes nés de nouveau, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire, c'est-à-dire dans la présence de Dieu, par le sang de Jésus, accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure.
Nuko bene data ko turi n'ubushize bw'ubwoba bwo gushikano ahera cyane n'amaraso ya Yesu duciye mu nzira dutoboresha iri n'ubugingo ica mu gihuzo gikinze bisobanurwa ngo umubiri wiwe kandi ko dufise umuhereza akomeye aganza urugo rw'Imana twegereze dufise imitima y'ukuri twize yatamazinda imitima yacu icucagiwe ngo ivanemwo ibitwagiriza ibibi imibiri yacu yuhagijwe n'amazi meza tugumye uko aturi vyizigiro vyacu.
Ici, c'est clair. C'est au travers de la nouvelle alliance, de ce que Jésus a fait, que nous avons la possibilité et l'invitation permanente. Dieu nous donne une invitation permanente à venir dans sa présence. Et là, c'est notre choix. Et je tiens à vous dire une chose, frères et sœurs. La vie de louange et d'adoration, c'est une vie que nous devons apprendre. On verra tout à l'heure ce qui se passe dans le ciel. Et en fait, c'est ce que Dieu veut que nous fassions sur la terre. Mais il va falloir apprendre. Il va falloir apprendre à louer et à adorer Dieu. Selon ce que le Nouveau Testament nous révèle. En esprit, en vérité. Nous n'avons plus de sentiment de condamnation, d'infériorité. Nous sommes juste devant Dieu. Et ce que Dieu veut, c'est que nous apprenions à pratiquer sa présence.
Ok,
tu es né de nouveau. Donc, entre toi et ton Dieu, les affaires sont réglées. Ta relation avec Dieu est ouverte. Maintenant, quand tu es rempli du Saint-Esprit, c'est là où tu vas commencer à avoir une onction qui te permet de vivre dans la présence de Dieu. Mais il va falloir que tu développes cette onction. C'est une onction personnelle que Dieu t'a donnée lors de ton baptême du Saint-Esprit. Et là, tu vas commencer à pouvoir expérimenter des choses qui doivent être de plus en plus profondes dans ta vie spirituelle. C'est la volonté de Dieu que nous apprenions à entrer profondément dans l'adoration. Comme je vous le disais, il y a des degrés dans l'adoration. Tu dois apprendre à ouvrir ton cœur. Et aussi, il faut que tu saches une chose, c'est que la vie personnelle d'adoration, c'est quelque chose que tout chrétien devrait pratiquer. Certains ont appelé ça le culte personnel. On a fait certains enseignements là-dessus parfois. À passer du temps avec Dieu personnellement. Parce qu'il n'y a pas qu'à l'église où on vient pour adorer. Il faut apprendre personnellement à passer du temps, à vivre une vie d'adorateur. Est-ce que tu vis une vie d'adorateur? Ou est-ce que simplement tu viens à l'église? Bon, tu es là. Ok, il y a un groupe de louanges. On essaie de suivre. On regarde comment fait le voisin. Le voisin fait comme ça, alors je fais comme ça. Ensuite, le voisin fait comme ça. Alors je fais comme ça. Non. Ça, c'est pas ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est que chacun d'entre nous, nous apprenions à avoir une vie personnelle d'adoration. Et il veut que nous apprenions à progresser dans cette vie personnelle d'adoration. Parce que je vais vous montrer ce que c'est que l'adoration. En fait, la vraie adoration, c'est quand on refuse de s'appuyer sur nous-mêmes. Et quand on s'abandonne, qu'on se livre totalement dans les mains de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui est important de comprendre. Quand tu apprends à t'abandonner dans la présence de Dieu, ça, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de l'adoration. Tu es là, et tu arrêtes de compter sur tes propres forces, sur tes propres façons de raisonner, et tu t'ouvres et tu te reposes dans cette présence de Dieu. Tu es là dans la présence de Dieu et tu te reposes dans sa présence en abandonnant tes propres forces et en puisant dans ses propres forces. La vraie adoration, c'est quand tu deviens plus conscient de sa présence, de sa présence, de Dieu qui est invisible. Plus que du monde que tu vois avec tes yeux. Et ça, ce sont des moments qui sont précieux. Et ce sont des degrés d'adoration. Quand tu es là, tu es dans sa présence. Et vraiment, tu as plus conscience de Dieu que du monde que tu vois. Ça, c'est la vraie adoration. Le reste, c'est des aspects extérieurs de l'adoration. La vraie adoration, c'est quand sa présence est là sur nous et qu'elle nous influence dans nos décisions, qu'elle nous rafraîchit, qu'elle nous environne. Elle vient sur nous comme un manteau. C'est ça la vraie adoration. Tu es là dans sa présence et cette présence t'influence. Elle influence tes pensées. Elle influence tes paroles. Elle influence tes façons de voir les choses. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans tout un tas de problèmes. Ils veulent compris. C'est bien prier. Mais d'abord, entre dans l'adoration. Laisse tes problèmes de côté. Et quand tu entres dans sa présence, c'est là où Dieu va te montrer la réalité. Quand tu es dans l'adoration, là tu remets Dieu à sa place dans ta vie. C'est-à-dire sur le trône de ton cœur. Sur le trône de ton cœur. C'est ça la vraie adoration. Et tes problèmes, ils sont remis à leur place, c'est-à-dire en dessous. Et quand quelqu'un n'est pas un adorateur, c'est le contraire qui se passe. C'est ces problèmes qui sont sur le trône de son cœur. Et puis Dieu qui devient tout petit dans sa vie, et ça c'est pas juste. Le vrai adorateur permet vraiment de remettre Dieu à sa place dans sa vie. Il y a trop de gens qui ne sortent pas de leurs problèmes parce qu'ils n'entrent pas dans l'adoration. Comprenez-moi bien, l'adoration n'est pas tout dans la vie spirituelle. Mais l'adoration doit être une grande part de notre vie spirituelle. La vraie adoration, c'est quand sa présence a un impact dans notre vie. Tu penses comme le ciel pense.
Hein.
Tu parles comme le ciel parle. T'arrêtes de parler ingorane.
Problème sur problème.
Mais au contraire. Tu vois Dieu tel qu'il est, et tu vois la solution à tes problèmes. C'est très simple. Tu agis comme Dieu veut que tu agisses dans tes problèmes. Et Matthieu 6:10 devient une réalité. Regardons ensemble. C'est beaucoup de gens prient, mais franchement, il faut qu'ils arrêtent de prier de la façon dont ils pensent qu'ils doivent prier. La fameuse prière du Notre Père, qui est priée souvent avec une mentalité de défaite. Et la deuxième partie du verset 10, Jésus dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors ça, souvent, les chrétiens qui prient cette prière, ils prient d'une façon fataliste. Oh, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si je meurs, ou s'il meurt, ou si elle meurt, bon, que ta volonté soit faite, Seigneur. Oh, s'il est malade ou si on perd tout, que ta volonté soit faite, Seigneur.
Mais
Jésus n'a jamais dit ça dans ce sens-là. Mais que le ciel, ce qui se passe au ciel, ça vienne sur la terre. Ça vienne sur la terre. Et pour ça, il faut que tu sois dans les mentalités du ciel. Dans les mentalités du ciel. Dans les façons de parler du ciel. Dans les façons d'agir du ciel. Donc dans la gloire de Dieu. Et pour être dans la gloire de Dieu, tu dois être dans l'adoration. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens, ils sont influencés par toutes sortes de choses. On les voit, ils agissent d'une façon charnelle à droite, d'une façon charnelle à gauche. Ils sont influencés à droite, à gauche. Toutes sortes d'influences charnelles. Il y en a, ils sont complètement oppressés par des puissances démoniaques. Pourquoi ils viennent dans les églises, mais ce ne sont pas des adorateurs. L'adoration permet de nettoyer l'atmosphère autour de toi. Parce que devant la présence de Dieu, il n'y a rien qui tient. Quand tu es un vrai adorateur, l'atmosphère spirituelle qu'il y a autour de toi, c'est une atmosphère divine. C'est pas une atmosphère charnelle. Et beaucoup de chrétiens, malheureusement, ont des atmosphères charnelles autour d'eux. Ils se demandent pourquoi ils ne voient pas Dieu intervenir. Mais crée toi-même ta propre atmosphère. Arrête de laisser l'atmosphère du monde t'envahir. Et prendre le dessus. Ce que Dieu veut, c'est que ton atmosphère spirituelle soit une atmosphère divine. Et pour cela, il faut que tu apprennes à devenir un vrai adorateur. Avoir ce désir d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Moi, personnellement, j'ai le désir de vivre régulièrement dans une atmosphère d'adoration. Que ce soit dans ma vie personnelle ou que ce soit dans mon ministère. Dans ma vie personnelle, je suis quelqu'un qui cherche régulièrement à adorer Dieu et qui adore Dieu régulièrement. Régulièrement. Tous les jours, je veux entrer dans la présence de Dieu. C'est très important. Je mets souvent un CD et là aussi, il faut trier, il ne faut pas mettre n'importe quoi. Parce que vous avez remarqué qu'il y a des chants inspirés vraiment du Saint-Esprit qui vous aident à entrer en présence de Dieu, mais il y a aussi des chants incrédules. Où il y a des choses qui sont chantées par des chantres chrétiens qui n'amènent strictement aucune onction. Et même parfois parmi les chanteurs les plus populaires que nous connaissons dans le monde entier. Il y a certains chants parfois on sent que c'est pas ça, ils vous amènent pas dans la présence de Dieu. Pourtant ils sont très bien orchestrés, c'est impeccable, la musique est impeccable, enregistrement impeccable, chant impeccable. Mais vous sentez que c'est pas ça. Quand vous écoutez, ça vous amène pas dans la présence de Dieu. Et apprenez à vous entourer de musique, de chants qui vous permet aussi d'entrer dans la présence de
Dieu.
Moi personnellement, je suis très sensible à ce genre de choses. Extrêmement sensible. Quand il y a des chants qui sont pas loin, tout de suite. Je sais qu'ils sont pas
moins.
Et des fois, je peux être dans le naturel en train de faire des choses. Il suffit que je mette un chant qui est vraiment loin. Et tout de suite, je peux entrer dans la présence de Dieu. Pourquoi ? Parce que c'est un exercice spirituel. Et au début de ma conversion, ce n'était pas du tout ça. Mais j'ai appris à le faire. Ça a mis du temps. Mais j'ai appris à le faire. Et je suis à la fois heureux quand on sent qu'il y a une atmosphère d'adoration dans l'église. Et par contre, je suis très malheureux. Et vraiment, ça me fait mal. Quand je vois que le peuple de Dieu n'est pas dans l'adoration. Vous savez, c'est très important que nous apprenions à être des adorateurs individuellement. Parce qu'à ce moment-là, quand nous sommes ensemble et que les gens vivent dans la présence de Dieu, ça se ressent tout de suite dans l'église. Et je peux vous dire une chose, c'est quelque chose personnellement à laquelle je suis très, très sensible. Et c'est la même chose, je le disais au premier culte. Les gens qui sont sur l'estrade, en train de jouer d'un instrument, ou en train de chanter, devraient être d'abord des adorateurs, avant d'être des musiciens et des chanteurs. C'est très important. Quand vous avez un groupe, où chacun est vraiment un adorateur, à ce moment-là, quand il est dans l'unité, l'harmonie, c'est beaucoup plus facile pour que le peuple de Dieu entre dans l'adoration. Et personnellement, je suis très sensible à ça. Extrêmement sensible à ça. Quand je suis dans le ministère, que j'exerce mon ministère ici dans cette église, et qu'il y a vraiment la présence de Dieu qui est là parce que les gens sont dans l'adoration, il m'est très facile de recevoir des choses du Seigneur. Par contre, quand le peuple n'est pas dans l'adoration, c'est extrêmement difficile de recevoir des choses du Seigneur. Et parfois, quand l'onction est là, si vous avez un musicien qui joue n'importe quoi pendant ce temps-là, ou un chanteur qui intervient d'une mauvaise façon, on le ressent tout de suite dans l'onction.
Et
je suis extrêmement sensible à ça. Et c'est très important que nous arrivions en tant que peuple de Dieu à un certain niveau d'adoration. Mais ça commence par l'individu. Si vous choisissez vraiment de devenir des adorateurs en disant, moi Seigneur, je veux vraiment apprendre à vivre une vie d'adoration. Seigneur, enseigne-moi à devenir un vrai adorateur selon ce que le Père recherche. Vous savez, Dieu recherche notre cœur. Ce que Dieu veut, c'est que nous apprenions à être des vrais adorateurs. Ce qui intéresse Dieu, c'est pas le style de musique que nous jouons à l'église El Shaddai. Ce qui intéresse Dieu, c'est pas celui qui va diriger la louange. Ce qui intéresse Dieu, c'est pas les chants que nous allons chanter. Ce qui intéresse Dieu, c'est notre cœur. C'est ton cœur et mon cœur. C'est ça qui intéresse Dieu. Si ton cœur est un cœur d'adorateur, tu verras les plus grandes choses. Et là aussi, je tiens à vous dire une chose. Il est important de comprendre les principes de l'adoration. Beaucoup de gens veulent venir en voulant ressentir quelque chose. Ils cherchent à ressentir. On va à l'église, mais je veux d'abord ressentir quelque chose.
Non.
Ça, c'est ne pas mettre les priorités là où elles doivent être. Viens adorer ton Dieu. Et le reste, tu verras. Dieu va venir et va se montrer. Sa gloire peut descendre. Il va guérir les malades. Il va remplir du Saint-Esprit. Il va toucher les vies sans aucun problème. Mais n'inversons pas les choses. Il y a des gens qui viennent pour eux-mêmes. Pour eux-mêmes. Rappelez-vous d'une chose. Un adorateur est un donneur. Un adorateur, c'est un donneur. Quelqu'un qui vient adorer Dieu, c'est quelqu'un qui vient avec une attitude. Seigneur, moi je veux te donner mon adoration. Les gens qui sont tournés vers eux-mêmes, qui sont toujours en train de dire, non, moi je veux recevoir, moi je veux bien me sentir, moi je veux être béni, moi. Je vais vous dire une chose. Ils perdent l'essence, le cœur de l'adoration. C'est pour ça que c'est très important de venir avec une attitude. Vous voyez, par exemple, le dimanche matin, on vient. Théoriquement, ça s'appelle un culte. Ça veut dire que nous allons rendre un culte à Dieu. C'est-à-dire, nous venons pour l'adorer, pour lui donner notre adoration.
Et tu vas toujours le recueillir, donc tu m'ushikanire ikino.
Théoriquement, nous venons pour
apporter
notre
adoration à Dieu. Et
à chaque fois que nous nous réunissons, à partir du moment où on parle de louange et
d'adoration,
notre cœur devrait être
«
Je veux venir avec mon adoration. Je veux venir devant mon Seigneur, avec mes frères et sœurs, dans l'église de Dieu. Et je vais m'assembler avec eux, faire un corps avec eux, pour venir au pied du Seigneur, pour venir l'adorer. » Ça, ça devrait être notre attitude, sans exception. Toujours. Je peux vous dire une chose. Quand je ressens que l'attitude de l'Église, c'est ça, là, franchement, je sens une joie à l'intérieur de moi. Par contre, je vais vous dire une chose. Quand je ressens que les gens ne viennent pas avec cette attitude-là, à l'intérieur, ça me fait vraiment mal. Franchement, je sens que le Saint-Esprit est attristé par rapport à ça. Où le peuple de Dieu vient sans un désir d'adoration. Où il y a des gens qui viennent. Bon, ils veulent entendre un peu de musique. Ils veulent rencontrer leurs amis. Ok, c'est bien de rencontrer ses amis. On s'est donné rendez-vous à la fin de l'église, c'est très bien. Mais si c'est ça ton objectif, tu passes à côté de ce que Dieu a pour toi. Dieu a pour toi ce que tu deviennes un adorateur.
Un adorateur.
Un adorateur. Et c'est là où plus nous entrerons dans l'adoration, plus on verra Dieu faire des choses. Le problème, c'est que beaucoup de gens n'ont pas encore cette compréhension et cette révélation de l'adoration. Et il faut vraiment prier par rapport à cela. Parce que Dieu veut vraiment que nous entrions dans cette dimension. Et ça fait déjà un bout de temps que le Seigneur nous parle par rapport à ça. Moi, le Seigneur m'a dit clairement, sur quoi tu veux, je prêche dimanche.
Le
Seigneur m'a dit, enseigne sur l'adoration. J'obéis au Seigneur. Parce que je sais quand on obéit au Seigneur, les gens sont touchés. Il va y avoir des conséquences de cela. Parce que je peux vous dire une chose. C'est important que nous entrions dans cette dimension.
Et
c'est un choix que nous devons faire. C'est un choix que nous devons faire. Désirer d'être des vrais adorateurs. C'est quand nous partirons d'ici, que nous serons au ciel. Les deux sortes de prières qui resteront, c'est la louange et l'adoration. Dans le ciel, tu n'auras plus besoin de foi. Tu as besoin d'exercer ta foi aujourd'hui parce que tu ne vois pas le monde spirituel. Tu n'auras plus besoin de rechercher la volonté de Dieu dans le ciel. Puisque tu connaîtras comme tu as été connu, nous dit la parole de Dieu. Tu connaîtras toutes choses dans le ciel. Le jour où tu vas quitter ton corps, que tu vas être auprès de ton Seigneur, avec tous les rachetés là-haut, tu n'auras plus besoin de faire cette prière en disant, Seigneur, quelle est ta volonté? Il
n'y
a pas de problème, directement, tu connaîtras exactement la volonté parfaite de Dieu. Toutes les prières, les autres prières que nous faisons, même la prière en langue, tout ça, ça va disparaître. C'est écrit dans la parole, dans 1 Corinthiens 13. Par contre, la chose que vous verrez, et nous allons voir juste quelques passages de l'Apocalypse, ce qui va rester, c'est la louange et l'adoration. Ce sont les deux prières qui resteront. Alors, n'ayez pas de choc culturel, comme je dis souvent, quand vous allez aller au ciel. Apprenez à être des louangeurs et des adorateurs.
Amen.
Apocalypse 4. La Bible nous décrit plusieurs scènes d'adoration dans le ciel. Plusieurs scènes d'adoration dans le ciel. Et les quatre êtres vivants qui ont chacun six ailes, en fait c'est les chérubins, ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, 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 le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Et quand les êtres vivants rendront gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens se prosternent au siècle et ils jetteront leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. » Regardez au chapitre 5 maintenant.
Verset
8. Quand il reçut le livre, les quatre êtres vivants et les 24 anciens ou vieillards dans notre traduction se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de recevoir le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Au verset 12, il est dit, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force et honneur, et gloire et louange. Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, et sous la terre, et sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la louange, l'honneur et la gloire, et le pouvoir au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient, Amen, et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Il y a d'autres passages encore dans l'Apocalypse qui nous déclare la louange et l'adoration qui se passe au niveau du ciel. Et ça, ce sont des passages qu'il faudrait que vous étudiez et que vous puissiez regarder ce qui se passe dans le ciel. La façon dont les choses se font. Parce que la Bible nous dit dans Hébreux 12, regardons ensemble et ce sera pour clôturer, versets 22 à 24, Hébreux 12, au verset 22, il est dit, mais au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades d'anges, de la réunion et de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, de Dieu, juge de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, c'est-à-dire à la maturité, et de Jésus, médiateur d'une nouvelle alliance. Verset 22 jusqu'au verset 24.
Ariko mwegere umusozi Siyoni numugwa w'Imana nzima Yerusalemu ho mwijuru nikoranero ikuru y'isinzi ry'abamarayika nishengero ry'abana b'imfura banditswe mwijuru mwegereye n'Imana ubucamanza wa bose n'impuhe muzabagororotsi batunganije rwose mwegereye na Yesu umuhuza ahesha isezerano rishya.
Donc il est clair ici que la Bible nous dit que quand nous nous approchons de Dieu, nous approchons du sanctuaire, nous l'avons vu, c'est-à-dire la présence de Dieu, du trône de Dieu dans le ciel, et que nous nous approchons aussi de cette assemblée qui est dans le ciel, des premiers-nés, c'est-à-dire de ceux qui sont nés de nouveau et qui sont morts en Christ avant nous. Et nous devons former en quelque sorte un corps avec eux. Le ciel loue et adore Dieu 24 heures sur 24. Et Dieu veut que la terre les rachete. Du Dieu Tout-Puissant puisse aussi le louer et l'adorer. Donc c'est important de comprendre notre rôle d'adorateur. Dans l'adoration, c'est là où on est perdu dans la présence de Dieu, dans la vraie adoration. Et c'est là où Dieu parle. C'est là où Dieu nous montre des choses. C'est là où on voit clairement. C'est là où il nous donne des directions. Il y a tellement de gens qui disent, mais moi je sais pas. Je prie Dieu, mais je sais pas ce qu'il veut pour moi. Je sais pas exactement. Si tu apprends à être un adorateur, tu vas voir que la volonté de Dieu devient quelque chose de beaucoup plus simple dans ta vie. Les gens qui n'ouvrent jamais leur cœur, leur esprit, qui n'adorent pas Dieu, c'est sûr qu'ils n'entendent pas la voix de Dieu. Ils entendent plein de choses dans leur tête. Vous pouvez pas savoir le nombre de choses que j'entends. Où les gens disent, le Seigneur m'a dit ceci, le Seigneur m'a dit cela. Et finalement, quand on regarde, le Seigneur n'a strictement rien dit. Parce que quand vous regardez la vie de ces gens-là, vous vous apercevez que ce ne sont pas des adorateurs. Vous voulez entendre la voix de Dieu? Vous voulez marcher avec Dieu? Vous voulez voir clairement dans votre situation? Une des grandes clés. J'ai bien dit une, c'est pas la seule. Une des grandes clés, c'est d'être un adorateur. Quand vous apprendrez à pratiquer cette présence de Dieu, que l'onction qu'il y a sur vous, du fait de votre baptême du Saint-Esprit, s'augmentera davantage et davantage et davantage, qu'elle deviendra de plus en plus puissante dans vos vies, vous verrez que la vie chrétienne aura un sens complètement différent. Cette vie chrétienne deviendra beaucoup plus facile. La prière, ça changera complètement. La volonté de Dieu, ça sera facile à voir. Et vous deviendrez des instruments dans les mains du Seigneur. Et vous serez étonnés. Mais comment voulons-nous être des instruments si nous ne savons pas nous approcher de Dieu, d'être dans sa présence, d'écouter sa voix? Vous ne pouvez pas savoir ce que Dieu peut nous dire dans sa présence. Dieu peut nous montrer les choses les plus
supérieures.
Mais encore, il faut apprendre
à
demeurer dans sa présence, donc à demeurer dans l'adoration. On va se lever, on va prier.